Vous êtes toujours sur Europe 1 et vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez juste maintenant pour votre libre antenne à 23h passé des 4 minutes. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien soyez les bienvenus. Vous composez le 39-21 si vous désirez nous parler, c'est 50 centimes d'euros la minute. Vous nous écrivez au 739-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace ou par mail à libreantenne@europe1.fr. Et nous accueillons maintenant Céline au 39-21. Bonsoir Céline.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Bon. Vous nous appelez ce soir pour nous parler de votre père, si j'ai bien compris, de cette relation qui a été tumultueuse.
Oui, relation dont j'ai réussi à m'en sortir, puisque j'ai plus de contact avec lui depuis 3 ans. Je commence à faire beaucoup moins de cauchemars le concernant.
Oui.
Je n'ai plus du tout de ses nouvelles et je n'en veux pas. Et je commence à avoir moins peur et à avancer, mais ça a été très difficile et ça a été long et je ne pensais pas en arriver là un jour.
Alors on va remonter un peu le temps, au plus loin que vous vous souveniez de ce père. Il a toujours été un père toxique, comme vous le dites, déjà tout petite.
Oui, déjà tout petite. Alors des fois je m'en veux parce que j'ai des bons souvenirs qui refont surface, mais la majorité ce sont des mauvais souvenirs. Il a toujours été toxique, rien qu'à ma naissance, puisque mon prénom, c'est le prénom de son premier grand amour qu'il a imposé à ma mère.
D'accord.
Donc, et puis ça, il aimait beaucoup le répéter, pour qu'on soit au courant, que tout le monde soit au courant. Après, au plus loin que je m'en souvienne, je me souviens quand il nous emmenait avec mes frères et sœurs chez la femme qu'il fréquentait en même temps que ma mère avant de nous avoir. Et il fallait qu'on le répète à ma mère quand on rentrait, pour lui faire du mal.
Oui.
Et après, c'est dans plein de ses comportements. On avait une chance incroyable, c'est que la semaine, il travaillait en déplacement. Donc, il rentrait soit le jeudi soir, soit le vendredi soir. Mais à partir du mercredi-jeudi, ma mère commençait à être très, très, très stressée parce qu'il allait rentrer. Et rien qu'à sa manière de rentrer, on savait si on allait passer un week-end horrible ou pas.
Et quand vous étiez petit comme ça, en fait, vous appréhendiez son retour ?
Oui.
Vous tous, en fait, vous aviez combien de frères et sœurs ?
On est 5.
5, d'accord. Et vous appréhendiez tous son retour ?
Alors, on appréhendait, mais en même temps, c'était particulier dans le sens où il essayait de nous maintenir par du matériel. Donc, il appelait sur la route en disant que grâce à des points fidélité, il avait pu, dans les stations-service, ramener 2 BD. Sauf qu'à l'époque, on était 3. Donc, c'était sûr, il y en avait un, il n'allait pas pouvoir avoir un cadeau. Donc, on avait hâte qu'il rentre, tout en ayant une appréhension, parce qu'on savait très bien que ça pouvait très mal se passer pour le week-end, même si je pense que quand on est petit, on ne se rend pas forcément compte que ce n'est pas normal ce qu'on vit à l'intérieur de notre famille. Et donc, quand il arrivait, eh ben, forcément, il y en avait un qui faisait une crise, puisqu'il y en avait un, il n'avait pas le cadeau qu'il avait pu lui promettre au téléphone. C'est en grandissant vraiment qu'on s'est rendu compte que ce qu'on pouvait vivre à la maison, c'était pas normal. Par exemple, moi je sais que vers l'âge de 11 ans, j'ai le droit d'aller manger chez une amie. Et quand j'ai mangé chez cette amie, le père mangeait à table avec nous. Moi, mon père, il a toujours mangé dans son lit. Ma mère devait lui monter son plateau. Et si elle n'allait pas assez vite, il balançait le plateau par terre. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère, moi, je ne veux plus aller chez ma copine, ils sont bizarres, le papa, il mange à table. Et c'est là que ma mère m'a expliqué que non, eux, ils étaient normaux, mais nous, on n'était pas normaux.
C'était finalement un père qui se comportait comme un souverain à la maison. Vous le compareriez à ça ?
Alors, je dirais plutôt tyran. Avec le recul, je dirais tyran. Parce que de l'extérieur, c'est vraiment le prince. Tout le monde n'a Dieu que sur lui. Ce papa, formidable, il a une très bonne situation, il fait tout pour ses enfants, alors que c'était l'inverse. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu me battre pour faire des études, parce qu'en même temps, faire des études, c'était synonyme de pouvoir partir, prendre mon indépendance. Et lui m'a toujours répété que j'étais conne, moche, que je finirais ma vie caissière et ma vie toute seule. Et quand j'avais mes années de fac, il me demandait combien d'hommes j'avais sucé pour avoir mes années de fac. Et qu'il fallait que je lui prouve que j'avais bien eu de bonnes notes. Sauf qu'à l'extérieur, c'était grâce à lui que sa grande fille arrivait à faire des études.
Et à votre avis, pardonnez-moi, à votre avis, en fait, qu'est-ce qu'il allait chercher dans tout ça? Parce que vous avez eu le temps d'y penser aujourd'hui. Bien évidemment, vous êtes adulte, mais à l'époque, lorsque vous réfléchissiez à ça, quel type de questions vous vous posiez et à votre avis, qu'est-ce qu'il essayait de provoquer chez vous?
Alors, à l'époque, j'étais persuadée que mon père ne m'aimait pas et ça me faisait énormément de mal. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être devenue maman et ça a été une épreuve parce que j'avais peur d'être comme lui. Sauf que je ne suis pas comme lui. Et maintenant, avec les sentiments que j'ai pour ma fille, je me dis que oui, il ne m'a jamais aimée, mais il a aimé faire du mal. Il a aimé me faire du mal et il a aimé faire du mal à mes frères et sœurs et à ma mère. Ça, j'en suis mais convaincue parce que je ne vois pas comment on peut faire tant de mal à ses enfants et à sa femme. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut sans rien ressentir.
Vous pensez qu'il... sans rien ressentir, ouais.
Bah, ça ne lui faisait pas de peine de nous faire du mal. Jamais il s'est excusé, jamais, je pense. Et il avait toujours un rictus, un sourire, je pense vraiment qu'il prenait plaisir à nous faire du mal. Il y avait un rituel chaque année à Noël, il fallait que un des enfants pleure et que les autres, on se mette de son côté. Et ça aussi, c'est difficile parce qu'en grandissant, je me rends compte que j'ai pu, comme mes frères et sœurs ont pu, participer à son côté sadique, à vouloir faire mal à l'autre pour avoir de la reconnaissance de la part de son père. Je l'ai fait pour avoir une reconnaissance de la part de mon père. Mais c'est horrible de se dire j'ai fait du mal à mes frères et sœurs pour essayer de faire en sorte que mon père m'aime. Et donc, à chaque Noël, il fallait qu'on participe à faire pleurer un des enfants qu'il avait choisi comme étant la bête noire qu'il fallait faire pleurer le soir de Noël. Et il avait un rictus. Jamais il s'est excusé, ça lui a jamais fait de peine. Il allait jusqu'au bout.
Il allait jusqu'au bout. Qu'entendez-vous par là ? Qu'entendez-vous par là ?
Jusqu'à faire pleurer, il rigolait. Il était content de voir l'un de ses enfants pleurer et faire une crise, parce qu'à un moment donné, on faisait une crise. Moi, j'ai souvenir une fois, il m'a fait tellement pleurer que j'ai fait une crise où j'avais qu'une envie, c'était me griffer la peau du cou pour me faire mal, parce que j'avais tellement mal que j'agissais contre moi et ça le faisait rire. C'était son but, en fait, c'était d'arriver à cet état où on allait péter un plomb.
Et vos frères et sœurs se retrouvaient eux aussi confrontés à ce même type de...
Oui.
Ouais, c'est dingue. Ça n'est pas la première fois que j'entends parler de comportements comme ceci, d'un père, souvent avec plusieurs enfants d'ailleurs. Alors, on parle souvent de pervers narcissiques, vous en avez entendu parler, des gens qui... qui divise pour mieux régner, qui déploie ce type de violence. Est-ce que vous le qualifieriez de ça, votre père ? Est-ce que avec votre mère, il était aussi, il lui tenait des propos dégradants pour elle ? Est-ce qu'il l'a rabaissée devant vous ? Comment ça se passait pour elle ?
Alors, pour répondre à votre première question, moi, je suis pas médecin, mais il y a un expert qui l'a expertisé dans le cadre du divorce, qui l'a qualifié de personnalité narcissique à tendance perverse. Donc, c'est pervers narcissique. Le mot a été mis sur ce que nous, on pensait, mais bon, on n'était pas médecin. Et puis, c'est vrai que le terme pervers narcissique devient un terme très à la mode. Donc,
un peu générique, en tout cas, un peu fourre-tout.
C'est ça. Mais avec ma mère, oui, tout comme avec nous, il a été toujours... très dur, à la rabaisser. Par exemple, quand elle a eu la ménopause, il l'appelait la chatte pourrie. Il l'a toujours appelée Big Mama. C'était le surnom qu'il lui donnait et qu'il fallait qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il considérait qu'elle était grosse. Il l'insultait devant nous. Et je me souviens qu'un jour, mon petit frère, qui était petit, m'a dit « Moi, tu sais, quand je serai grand, j'aurai pas d'enfant pour pas leur faire du mal et j'aurai une femme. Mais tu sais, à ma femme, je lui dirai jamais que c'est une pute. » Voilà. Et il a 7 ans quand il me dit ça.
Il a 7 ans. Et aujourd'hui, quel âge a-t-il ?
Aujourd'hui, il a 14 ans. C'est difficile pour lui parce que il est encore... vu que mes parents divorcent, c'est le seul lien de rattachement avec ma mère pour mon père.
Ouais.
Donc, il l'utilise beaucoup. Donc, c'est très difficile parce que c'est un petit garçon qui est très intelligent, qui est conscient de ce qu'est son père, qui est conscient du mal que fait son père. Mais ça reste son père. Et pour le moment, il peut pas faire le chemin que moi j'ai fait, par exemple. Mmh. Mais moi, j'ai été suivie pour arriver un jour à dire stop, moi maintenant je ne veux plus de nouvelles, et arriver à dire à ma mère, je ne veux même pas savoir comment ton divorce se passe. Je ne veux rien savoir. Je fais ma vie.
On va continuer à évoquer votre histoire, Céline, et puis parler de justement de l'impact que cela a eu sur vous, et en tant qu'ado, et ensuite en tant que jeune femme, et puis aussi l'état de vos frères et sœurs ensuite, hein, puisqu'il y en a deux autres, à part celui... Non, trois autres à part celui de 14 ans. Oui. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et nous sommes toujours avec Céline qui évoque son enfance passée aux côtés d'un père toxique. Lorsque vous évoquez la violence des mots, hein, l'attitude de ce père, Céline, on peut imaginer combien ça a dû faire de vous une enfant fragile. Fragile comment, en fait, au-delà de vous griffer comme ça, quel impact ça avait sur vous lorsque vous alliez à l'école, le rapport aux autres, parce que vous deviez manquer profondément de confiance en vous, non ?
Exactement. Ben, j'ai toujours expliqué, pour essayer de me faire comprendre, que c'est comme si j'avais une pierre au cœur tellement lourde que j'avais qu'une envie, c'était mourir, et que pour moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais en vie pour souffrir comme ça. Ma vie n'avait aucun sens. Donc l'école, c'est sûr que ce sont mes pires années, moi, le primaire, le collège, le lycée. Et finalement, mes meilleures années, c'est la fac. Et quand je réfléchis bien, la fac, c'est quand je suis partie.
Vous pouviez, vous avez pu commencer à évoquer peut-être à la fac ça ? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle facilement ?
Ah non, 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 non. Là, c'est un exploit que j'arrive à vous en parler comme ça, parce que j'ai évolué. J'ai réussi à en parler après mon premier travail, où j'ai rencontré, dans le cadre de mon travail, des couples, et où j'ai pu me rendre compte que c'était pas du tout normal. C'était pas du tout normal. Et juste avant, j'ai eu une relation où la personne avec qui j'étais se comportait comme mon père. Et même déjà à la rupture, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que je reproduisais le schéma de ma mère et que c'était pas normal. Mais c'est vraiment en commençant à travailler et à rencontrer dans le cadre de mon travail des gens qui se séparaient que je me suis rendu compte que c'était pas du tout normal et que j'ai commencé à en parler. Mais quand on commence à en parler, on a honte parce qu'on se dit c'est pas possible, c'est tellement gros tout ce que je raconte, on va pas me croire. Et puis on culpabilise parce qu'on aime quand même son père, donc on culpabilise de dire du mal parce qu'on n'est pas comme lui, nous on ressent des choses. Donc on se dit c'est pas bien ce que je fais. Et après quand ma mère a demandé le divorce, c'est là où je me suis dit que il risquait d'avoir une réaction qui allait avoir un impact important sur moi. J'ai fait le choix d'aller voir de moi-même un psychologue, et c'est ce psychologue qui m'a aidé vraiment à parler. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'arrive à dire des choses que je n'arrivais pas à dire il y a 2 ans, par exemple.
Vous évoquez peu votre mère lorsque vous parlez de ce père qui vous agresse en permanence. Est-ce qu'elle se dressait entre lui et vous ?
Non. Non, elle ne se dressait pas. Alors, je l'aime énormément, ma maman. Je sais qu'elle n'avait peut-être pas la capacité de s'opposer à lui par peur, et c'est pour ça qu'elle ne l'a pas fait. Je lui en veux quand même un peu, parce que c'est vrai qu'on se dit, si elle avait eu le courage de s'opposer, de prendre ses enfants et de dire « je m'en vais », n'aurait peut-être pas subi tout ce qu'on a subi après, mais je pense qu'elle n'était pas dans la capacité de le faire.
Elle était femme au foyer ?
Oui, elle n'a jamais travaillé, il lui a fait arrêter ses études, il l'a interdit de travailler, ouais. Et il lui donnait tous les mois de l'argent uniquement pour faire des courses, donc elle était limitée en termes d'argent. D'ailleurs, ça nous a traumatisé les courses, nous, les enfants. On déteste faire ça parce que quand on allait faire les courses avec ma mère, ça durait des heures. Elle était obligée de noter sur un papier ce qu'elle mettait dans le caddie, de calculer le total pour voir si elle arrivait au budget fixé. Et si c'était pas ça, il fallait ramener certains trucs dans les rayons.
Pourquoi ? Parce qu'il vérifiait.
Il contrôlait. Ah oui, il fallait dépasser ce qu'il donnait. Donc, ouais. Elle avait pas d'argent. Comme nous, moi, il a vérifié mes comptes bancaires jusqu'à mes 24 ans. Moi, tout ce que je travaillais l'été pour payer mes études, l'argent lui revenait.
Et comment vos frères et sœurs, réagissaient-ils en fait quel impact ça a eu sur eux? Est-ce que ça a fait de vous une fratrie soudée ou ça se met la zizanie entre vous?
Alors, aujourd'hui, on est soudés, même s'il y a des points de tension, parce que chacun avance différemment.
Oui.
Mais petit, divisé pour mieux régner, il adorait faire ça. Hein. Donc, on se détestait. Quand on allait lui dire bonne nuit le soir, il avait choisi un allié. Il avait choisi un enfant à qui il fallait faire mal. Et donc, celui qui venait dire bonne nuit, qu'il avait désigné comme étant celui qui devait souffrir, il l'attrapait avec les autres frères et sœurs, il l'enroulait dans la couette et il piquait avec le cure-dent sur la tête et sur les pieds. Donc, on en voulait à notre père, mais en même temps, moi, j'en voulais à celui qui était de mèche avec lui.
Oui. C'est hallucinant, hein, ce que vous racontez.
Mais c'est vrai, c'est parce que j'ai toujours eu peur qu'on ne me croie pas. Maintenant, j'ose en parler parce que je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Et pourtant, il y a une partie de sa famille qui ne me croit pas. Quand ma mère a demandé le divorce, il a quand même raconté à tout le monde, et il y a des gens qui l'ont cru, que si elle demandait le divorce, c'est parce qu'elle était alcoolique. Que si elle était alcoolique, c'est parce qu'elle était dépressive. Et si elle était dépressive, c'était à cause de moi, parce que j'ai été violée étant jeune et que j'avais des troubles psychiatriques.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de viol? Elle n'a jamais existé.
Oui, j'ai jamais été. Alors, il y a eu des choses avec mon père, mais j'ai jamais été violée étant jeune. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, à Alain, il racontait que j'étais violée par un ami de la famille, ouais. Et à quelqu'un d'autre, il racontait par quelqu'un d'autre. Et c'est affreux ce qu'il dit. C'est tiré par les cheveux, mais il y a des gens qui le croient. C'est ça qui est terrible, en fait. Il est venu me harceler sur mon lieu de travail quand ma mère a demandé le divorce. Il a raconté à une partie de la famille que j'avais fait intervenir la police et qu'il avait été agressé. Mais c'est pas du tout vrai. Il n'y a jamais eu la police. Il n'a jamais été agressé. Mais les gens arrivent à le croire.
Alors, je vais vous poser une question qui est peut-être un peu intrusive et vous n'êtes pas obligé d'y répondre, bien évidemment. Mais est-ce que, parce que ça a dû vous traverser la tête, ce père, il nourrissait de drôles de sentiments vis-à-vis de vous pour... Vous marquez à la culotte comme ça, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, venir sur votre lieu de travail, mais surtout contrôler tout ce que vous faisiez, vous faire des réflexions. On ne va pas répéter le type de réflexion qu'il vous faisait quand vous étiez à la fac par rapport aux garçons. Hein, combien vous en aviez rencontré pour en arriver là? Est-ce que ça vous a traversé la tête, ça, à l'époque, qu'il nourrissait des sentiments qui n'étaient pas très normaux pour un père?
Non, mais là où ça m'a traversé la tête, c'est quand ma mère a demandé le divorce et qu'il m'a écrit un courrier à moi, alors que c'est ma mère qui le quitte, mais un courrier comme s'il essayait de me reconquérir moi en me disant « tu as tes démons, je vais t'aider à te guérir de tes démons, viens, rassemblons le troupeau, je t'emmène à New York ou à Rome ». C'est les deux villes que j'adore. Oui. C'était vraiment comme une lettre d'amour alors que c'est mon père.
Et il n'a jamais agi avec vos autres sœurs comme ça?
Non, jamais. Alors, mon autre sœur, il faut savoir qu'il ne l'a jamais voulu. Donc, ma mère est tombée enceinte par accident, donc il voulait qu'elle avorte. Et malheureusement, c'est celle qui lui ressemble le plus physiquement, qui fait le même métier que lui.
Oui.
Et ma deuxième sœur me ressemble énormément et il lui a toujours dit de façon « t'es comme ta sœur, je t'aime pas, t'es comme ta sœur », en parlant de moi.
Et comment elle vit aujourd'hui? Elle a toujours des contacts avec lui?
Non, elle est encore mineure. Elle va plus chez lui le week-end, sauf quand vraiment elle y trouve un intérêt d'y aller. C'est difficile parce qu'elle fait croire que ça va, mais je sais que ça va pas.
Alors,
après, elle sait qu'on est là, nous, pour la soutenir quand elle a besoin de parler. Mais elle a de temps en temps besoin de nous faire mal. Peut-être pour nous faire réagir, je ne sais pas.
Ça fait combien de temps, en fait, que votre mère a réussi à divorcer?
Alors, le divorce n'est pas encore prononcé, mais ça dure depuis 3 ans et demi.
Et il a encore une influence sur elle, en tout cas il la tient, déjà financièrement, il essaie de maintenir une pression sur elle?
Oui, oui, oui. Sinon le divorce serait déjà prononcé.
Vous disiez que ça fait. Vous disiez donc que ça fait 3 ans que vous n'avez plus de nouvelles.
Oui.
Vous avez donc rompu avec lui. Comment vous avez pu rompre avec lui ? Est-ce que ça a été facile pour vous de rompre définitivement avec lui ?
Alors, il y a 3 ans et demi, quand je suis, parce que je suis partie vivre loin pour mon travail de ma famille, je suis rentrée à Pâques dans ma famille pour fêter Pâques. Et le matin de Pâques, quand je me suis levée, qu'il fallait préparer les gâteaux pour Pâques avec ma petite sœur, c'était notre rituel, ma mère était en train de pleurer dans la cuisine et m'explique qu'il faut que j'appelle mes autres frères et sœurs, ma grand-mère, pour leur dire que c'est annulé parce que mon père a pété son câble et est parti en disant qu'il fallait tout annuler, qu'il voulait surtout voir personne et qu'il partait. Et là, je ne me suis pas reconnue dans le sens où là, j'ai dit à ma mère non. J'ai dit, tu sais, il fait ça pour te faire du mal. Bien sûr qu'il va revenir. Non, on n'annule rien. Tout le monde viendra. Moi, je te parie qu'il n'est pas parti loin comme il le prétend et qu'il est au bistrot du coin à surveiller les voitures qui passent pour voir si justement tout le monde va venir. Donc, elle a pas annulé. Elle m'a expliqué les raisons de leur dispute. À savoir que, je vais le dire en antenne, hein, tant pis, que dans la nuit, il a voulu une relation sexuelle qu'elle n'a pas voulu, qu'il a pété un plomb. Donc, c'était sa manière de lui faire payer. Donc, tout le monde est arrivé. Et puis, on a commencé à prendre l'apéro. Et là, il est rentré. Donc, on était tous en état de stress, hein, parce qu'on savait très bien que là, on allait provoquer une guerre énorme. Et je me souviens, quand il s'est assis face à moi, parce qu'il a très bien compris que ça pouvait être que moi, avec ma force de caractère qui pouvait initier le mouvement. Il avait un regard noir, et là, j'ai compris qu'il allait tout faire pour que ça pète. Et ça a pété. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire que, de toute façon, il voulait divorcer, que j'allais les aider dans leur divorce, qu'il n'avait jamais aimé ma mère, que s'il était resté avec, c'est parce que mon grand-père, sur son lit de mort, lui avait demandé de rester avec. Donc, sa propre mère, à lui, était là, hein, pleurait, en disant « mais c'est pas possible, t'es fou mon fils, c'est pas possible », que de toute façon bah, j'étais conne, moche, que j'avais peut-être pas fini caissière mais que je finirais ma vie toute seule, que mon frère il était con, qu'il était un moins que rien, que ma sœur était con comme une valise, et voire même un autre terme qu'il utilisait très couramment.
Ouais, il avait décidé, en tout cas de...
Et il a explosé, et moi je suis partie, parce qu'il a exigé que je m'en aille, je suis partie, et je ne suis plus jamais revenue dans cette maison, et j'ai décidé de ne plus lui parler. Il m'a envoyé des tas de messages, et il est venu jusque là où j'habite pour essayer de me parler. J'ai refusé.
Alors et Céline, on va marquer une petite pause, et on va continuer à parler de ces 3 ans, depuis que vous n'êtes plus sous son influence, et on va faire un bilan un petit peu de la femme que vous êtes devenue, suite à tout ça et ce renouveau que vous vivez aujourd'hui. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21, 75 centimes plus coût du SMS.
Un père toxique pour ses 5 enfants, un père manipulateur et pervers narcissique avec sa femme, mais j'ai envie de dire aussi avec ses enfants, divisé pour mieux régner, hein, Céline, c'est ce que vous avez vécu enfant, puis adolescente, et puis ensuite jeune adulte, jusqu'au moment où vous êtes arrivée en faculté. Vous expliquez il y a quelques instants que, il y a 3 ans, à Pâques, donc, votre père avait encore fait son cirque, hein, on va dire, voulant imposer toutes ses idées, et puis voulant encore imposer à votre mère un rapport qu'elle ne voulait plus. C'est là que vous êtes partie, depuis 3 ans. Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez senti que vous vous reconstruisiez loin de ce père ?
Au début, non, je ne l'ai pas senti. J'ai vu une psychologue toutes les semaines pendant très longtemps parce que j'en avais besoin. Et peu à peu, j'ai commencé à aller mieux. J'ai rencontré quelqu'un qui, pour le coup, n'est pas du tout comme mon père, qui est quelqu'un de merveilleux, qui m'a énormément aidée à retrouver confiance en l'homme, parce que du coup, pour moi, bah, je fuyais l'homme, et qui m'a donné le bonheur d'être maman. Donc, ça a été très dur pendant la grossesse parce que j'avais très peur d'être comme mon père.
Oui.
J'avais peur de ne pas l'aimer. Et en fait, non. Heureusement, non. Par contre, ça a été dur parce que il a appris que j'étais enceinte. Et bah, il sait faire, même s'il est bloqué de partout, que je peux pas avoir contact avec lui, il sait faire passer des messages par les membres de la famille. Oui. Et heureusement, j'ai accouché un mois en avance sans que ce soit prévu. Donc, il a pas pu venir à la maternité puisqu'il s'était renseigné sur beaucoup de choses.
Oui.
Et il a fait passer le message qu'il était persuadé que mon enfant était soit trisomique, parce que j'avais des gros troubles psychiatriques, soit noir, parce que c'est quelqu'un de très raciste, hein, soit noir parce que j'ai toujours été une salope qui aimait les noirs et que je n'avais pu que tromper mon compagnon actuel. Et ça m'a fait énormément de mal parce que c'est touché à ma fille. Donc ça m'a énormément blessée.
Ouais.
Mais après, je me suis dit, ce sont ses paroles, ça lui appartient, ça me prouve qu'il est malade, qu'il changera jamais. Mais par contre, il a fait passer le message qu'il agirait pour pouvoir voir
sa petite fille.
Et ça, c'est hors de question. Ça, je me battrai, mais je l'ai dit, hein, s'il faut que j'aille en prison pour l'empêcher de voir sa petite fille, je le ferai. Parce que c'est hors de question.
Je ne sais pas si vous écoutez régulièrement la libre antenne, mais déjà, des pères ou des mères ont du mal à faire valoir leurs droits. Des grands-parents, bien évidemment, essaient, mais pas dans des situations telles que celle-là.
Oui, je pense qu'il aura beaucoup de mal.
Encore plus si vous bénéficiez de l'appui de votre maman et puis de vos frères et sœurs qui sûrement témoigneront dans votre sens. Non, j'étais en train de me poser la question en même temps que vous me parliez et que vous me disiez ce qu'il avait pu encore balancer sur vous à ce moment-là de votre vie. Vous savez, ça me faisait penser à ces violeurs ou ces personnes qui agressent des enfants et qui, au moment du procès, à qui on essaie de faire comprendre qu'avouer, ça fera beaucoup de bien aux victimes pour qu'elles se reconstruisent.
Oui.
Et j'avais cette image-là de lui, en fait, de cet homme, en fait, qui continue à essayer de vous détruire, quoi. Je me demandais ce qui l'animait, en fait. Qu'est-ce qui pouvait animer cet homme? Mais vous avez raison, vous avez dit en même temps les mots qu'il fallait. Il est malade. Il est malade.
Oui, je pense qu'il est malade.
Ben ouais, pour prononcer ça, ouais.
Est-ce qu'il en est conscient? Je ne sais pas. Dernièrement, il a écrit à ma mère en lui disant que. Il avait 60 ans, qu'il était devenu grand-père, qu'il ne verrait jamais sa petite-fille et que c'était peut-être mieux pour elle.
Et il est, pour l'instant, c'est le seul petit-enfant qu'il est?
C'est ça, tout à fait.
Vos frères et sœurs n'ont pas réussi à faire leur vie pour l'instant? Bon, ils sont jeunes encore, peut-être.
Oui, les deux grands, non, ils pourraient. Mon frère réussit à faire sa vie, même si c'est un sujet très difficile pour lui, où quand on l'aborde, il pleure,
ouais.
Et il a du mal à mettre des mots.
Quel âge a-t-il, lui ?
30 ans.
30 ans, d'accord.
Et ma sœur, qui a 28 ans, elle est dans une phase très difficile. Je pense que tant qu'elle n'aura pas entamé une thérapie, elle n'arrivera pas à s'en sortir, et donc elle a des comportements à risque pour se faire mal. Je pense que c'est pour ça.
Qu'entendez-vous par des comportements à risque ? C'est peut-être
la outrance,
le sexe à outrance aussi.
Oui, je pense. Après, elle sait très bien que si elle m'en parle, je vais plutôt être une maman moralisatrice pour elle. Donc, je sais des choses, mais elle me le dit pas.
En fait, elle veut se faire du mal. Elle cherche à se faire du mal.
Oui. Alors j'ai décidé on a décidé avec mon compagnon que ce serait la marraine de notre fille. On espère que ça va la responsabiliser, et que ça va lui donner peut-être quelque chose pour avancer. Parce que j'ai l'impression que pour le moment, elle s'accroche à plus rien.
Ouais, ce qui est certain, c'est que cela soit pour votre frère de 30 ans, comme pour votre sœur, et d'ailleurs pour les deux autres enfants de cet homme, vos frères et sœurs, oui, il y a deux autres petits garçons. Vous êtes 5 en tout, vous m'avez dit. Hein.
On est 5, oui.
Donc, il y a 2 filles et 3 garçons.
Il y a 3 filles et 2 garçons.
3 filles et 2 garçons. Il est certain que l'image de l'homme, de l'homme en tant que père d'abord, qu'adulte, ensuite. Et puis, quand on grandit, pour vous, les filles, de compagnons, hein, de celui qui va vous protéger, oui. qui va être votre épaule, elle est très détériorée, cette image.
Mmh. Ah oui.
Pour vous, ça s'améliore aujourd'hui parce que vous avez eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien qui a dû beaucoup vous rassurer et vous montrer que tous les hommes n'étaient pas pareils. Mais je suppose que vos Exactement. Deux autres sœurs n'ont pas encore eu cette chance.
Non. Après, ce qui est difficile pour moi là, à l'heure actuelle, c'est de dire à ma fille, tiens, il y a ton papa. Parce que quand je prononce papa, ça me renvoie à mon père. Toujours.
Ouais, ouais. Vous êtes nombreux à réagir au 739-21 et étonnamment, beaucoup de femmes réagissent et identifient dans votre témoignage le comportement de leur père, elles aussi. Donc c'est assez étonnant de voir combien votre témoignage suscite de réactions, 739-21, Céline. Mais on voit aussi dans les témoignages qui nous sont envoyés combien... À ce moment, à l'adolescence, à l'enfance même, combien la construction se fait à travers l'image du père.
Oui.
Et que cela tient du miracle hein, d'arriver à se rétablir de ça. Vous y pensez souvent oui. à ça ?
Oui, j'y pense très, très, très souvent. Je pense que si j'avais eu un autre père, j'aurais été plus heureuse et j'aurais évolué différemment. Il y a encore des moments où je vais me réveiller le matin et où je vais être très, 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 très mal, alors qu'il n'y a plus de raison que j'aille mal. Je ne le vois plus, j'ai un bébé, j'ai un compagnon, mais il y a des moments, il y a des rechutes.
Bon, bah écoutez, en tout cas, plongez votre regard dans celui de votre petite fille. Hein, je suppose que je n'ai même pas besoin de vous le dire, que vous devez le faire bien souvent pour voir oui. que la vie... Tout ce qu'il y a de beau dans la vie existe dans ces yeux-là. Et puis, je vous souhaite bien évidemment beaucoup de bonheur et embrassez votre jolie famille pour moi. Et mille merci d'avoir eu le courage de témoigner sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, Céline.
Merci, Olivier.
Merci à vous et passez une bonne nuit. Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.